France Musique.
Bonsoir Dominique Boutel et à bientôt sur l'antenne de France Musique.
Je savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous vous risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner.
You're not Rosebud, are you?
What?
Rosebud? And your name is Jennings. Goodbye, everybody.
Is it just because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU girls are bitches?
I guess so.
Yeah, I think Paige is the same.
Monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse.
Si, moi j'aime bien les vieux.
Itzana. Kame ni mo shusse ni mo naran. Muzukashi iksa ga aru nda wa. Tsuite kuru ka. Hai.
Did you find what you were looking for?
No, with two shots in his back, one in his stomach. Nobody important.
Cinéma Song par Thierry Jousse.
Aujourd'hui, l'héritage Antonioni. Bonsoir. Avec Bergman, Godard ou encore Rossellini, Antonioni est sans doute l'un des cinéastes les plus importants et les plus influents de ce que l'on a appelé la modernité. À l'occasion d'une exposition et d'une rétrospective consacrée à l'auteur de La Ventura à la Cinémathèque française, j'ai eu envie de revisiter l'univers musical du grand Michelangelo, croisant Giovanni Fusco, Herbie Hancock ou encore les Pink Floyd, mais également de me pencher sur sa descendance cinématographique qui embrasse très large, du Coppola de Conversation secrète au Brown Bunny de Vincent Gallo en passant par Skolimowski, Tarkovski, Wenders ou encore Ussia Ossienne, où l'on entendra qu'Antonioni est encore et toujours un cinéaste farouchement contemporain, commenté témoigne l'engouement encore très fort pour des films comme Blow Up ou Zawiski Point. Au mi-temps de ce voyage en deux parties, Charles-Pierre Vallière accostera sur les rivages de sa chronique essentielle BO consacrée ce soir au labyrinthe du silence et à la réédition de Big Lebowski des frères Cohen. Mais en attendant, mon actualité c'est d'abord ceci. Ed Haig, un extrait de la bande originale de Maniac, film sorti en 2012 de Frank Calfoun et dont la musique est éditée aujourd'hui, enfin ces jours derniers en tout cas, sur le label Music Box Records. Et le musicien donc qui a composé la bande originale de ce film, c'est Robin Couder, de son vrai nom, Rob, plus connu donc sous le nom de Rob, un compagnon de route du groupe Phoenix, qui a lui-même une carrière pop et puis qui réalise aussi un certain nombre de musiques de films depuis, on va dire, quelques années. C'est un des espoirs, on va dire, de la musique de film en France. D'ailleurs, nous lui consacrerons bientôt une émission dans Cinéma Song. J'ai eu l'occasion de le rencontrer récemment au Festival d'Aubagne, dont on parlait la semaine dernière. Et Rob, donc, avait composé cette musique de Maniac en 2012. Elle n'avait pas été éditée intégralement jusqu'ici. Donc, c'est chose faite grâce au bon soin du label Music Box Records, qui produit et édite beaucoup de rééditions. On en reparlera d'ailleurs juste après. Et cette musique, elle est évidemment dominante, très électronique, sous influence probablement de John Carpenter, Giorgio Moroder ou Tangerine Dream, en tout cas tout ce type d'univers synthétique dont on parle régulièrement dans Cinéma Song. Dans les notes de pochette, Rob fait également état d'une influence de Steve Reich, donc le côté répétitif. J'ai oublié de dire que Maniac donc était un film d'horreur franco-américain produit donc par Alexandre Aja, qui lui-même a œuvré à plusieurs reprises. On se souvient de son remake de La Colline à des yeux, et ce film-là est également un remake. C'est le remake d'un film culte de William Lustig qui s'appelait également Maniac et qu'il a réalisé en 1980. Une des particularités de ce film Maniac, en dehors de sa musique très réussie, c'est d'être filmé en caméra subjective pendant toute la durée du récit. Donc une BO vraiment à écouter si on aime ce genre d'univers. Alors dans un registre extrêmement différent, on va dire, mais aussi dans une époque très différente, 1972, on réédite deux musiques rares de Michel Legrand sur le même label Music Box Records. Un film de Serge Corbert, Les Feux de la Chandeleur, avec Jean Rochefort et Annie Girardot, qui était une sorte de mélodrame social, genre assez rare, on va dire, dans le cinéma français, un peu oublié aujourd'hui, mais avec une très très belle musique de Michel Legrand. Et puis également un autre film sur le même CD, La Vieille Fille, alors qu'il lui était plus une comédie un peu à la Tati à la même époque, avec Philippe Noiret, Annie Girardot d'un côté, et puis de l'autre côté un autre couple que le premier rencontré sur la plage, formé par Michael Lonsdale et Edith Scob, deux grands acteurs français un peu excentriques que j'adore, et je ne suis pas le seul, je crois. Alors les musiques de Legrand, elles sont extrêmement variées. J'ai choisi du coup de vous faire entendre trois extraits différents qui permettent de comprendre à quel point Legrand finalement est un musicien qui a une palette extrêmement large. On l'identifie souvent à quelques thèmes ou à quelques figures, notamment dans les films de Jacques Demy, mais c'est un peu réducteur parce qu'on va voir que Demy était capable d'aller à la fois dans un lyrisme tout à fait qu'on lui connaît, mais également dans des univers beaucoup plus électriques, comme il avait prouvé d'ailleurs à la même époque dans la bande originale d'Un homme est mort de Jacques Doré. Je vous propose d'écouter trois extraits de composition de Michel Legrand pour Les Feux de la Chandeleur et La Vieille Fille chez Music Box Records.
Thank you.
Michel Legrand par trois fois à l'instant, un extrait volontiers funky électrique, ce qui n'est pas totalement habituel, on va dire, chez Michel Legrand, même si ça arrive parfois. Donc un extrait de la bande originale de La Vieille Fille, le premier long métrage de Jean-Pierre Blanc, 1972, juste avant un autre extrait de La Vieille Fille, mais celui-ci beaucoup plus dissonant, encore plus inhabituel peut-être dans la filmographie musicale de Michel Legrand, et encore avant le thème de Marie-Louise pour la bande originale des Feux de la Chandeleur de Serge Corbert, qui est réalisé d'ailleurs juste avant l'homme orchestre, le fameux homme orchestre avec Louis de Funès, qui était une comédie musicale sur une musique de François de Roubaix. Et cette fois, c'était Michel Legrand pour ce mélodrame social avec Annie Girardot et Jean Rochefort, 1972. Et cette musique beaucoup plus conforme à l'image romantique et lyrique qu'on peut avoir de Michel Legrand. En tout cas, ça vaut vraiment le coup pour les amateurs de Michel Legrand et même pour les autres d'acquérir ce CD paru chez Music Box Records, Les Feux de la Chandeleur, La Vieille Fille, Michel Legrand, tout comme, je rappelle, le Maniac, la musique du film Maniac par Rob, dans un univers, lui, complètement différent en 2012, beaucoup plus récemment, mais tout ça c'est chez Music Box Records. Et maintenant, place au grand Michelangelo Antonioni. Un extrait de la bande originale de L'Aventura, signé bien sûr Giovanni Fusco, le compositeur de prédilection de Michelangelo Antonioni à cette époque, en 1960, L'Aventura qui marque une césure dans l'œuvre et la carrière de Michelangelo Antonioni, un scandale à Cannes pour obtenir finalement un grand prix spécial du jury à cette époque, mais une projection qui manifestement avait été extrêmement houleuse. Antonioni entre vraiment là dans la modernité de plein pied avec ce film qui sera un des plus influents de cette période-là, avec Hiroshima mon amour par exemple, d'Alain René ou bien sûr le À bout de souffle de Godard, sans parler de certains films de Bergman. Antonioni, bien sûr, c'est un cinéaste dont l'influence est énorme. On va en parler tout au long de cette émission et surtout dans la deuxième moitié. Mais c'est également quelqu'un qui a marqué son temps très fortement, notamment dans ses années 60. On lui consacre à la Cinémathèque française une magnifique exposition mise en musique, si je puis dire, par Dominique Paigny, qui d'ailleurs réalise une autre exposition en ce moment même à Paris également, au 104, sur les 120 ans de la firme Gaumont. Mais si on revient à Antonioni, donc cette très belle exposition à base d'archives, de photos, de documents, d'extraits de films très très bien mis en valeur, et puis également de peintures, de toiles qui rentrent un peu en relation avec l'œuvre d'Antonioni, de peintre moderne, on va dire, et également d'ailleurs des œuvres d'Antonioni lui-même, puisque Antonioni a été peintre. Une rétrospective aussi en ce moment à la Cinémathèque française qui permet de revisiter cette œuvre à la fois célèbre et méconnue, puisque on revoit pas toujours beaucoup les films d'Antonioni. C'est évidemment une œuvre majeure et influente de cette période, et l'Éclipse également qui ressort en salle, donc une actualité antonionienne tout à fait importante et majeure. On va donc revisiter, je le disais, dans le chapeau d'ouverture, Antonioni lui-même, l'univers d'Antonioni, son univers sonore et musical, mais également ses héritiers qui sont nombreux et variés, les films qui ont été marqués par Antonioni, les cinéastes qui ont été influencés par ce grand cinéaste italien et international. On pourrait dire avant La Ventura, donc qui marque à la fois son entrée, je disais, dans la modernité, mais également le début de sa collaboration et de sa relation amoureuse avec Monica Vitti, avec lesquelles il réalisera 4 films, La Notée, L'Éclipse et Le Désert Rouge. On y reviendra. Avant cela, Antonioni, qui est né en 1912, donc à Ferrare, dans le nord de l'Italie, avait été à la fois journaliste, documentariste, assistant, scénariste, et c'est en 1950 qu'il commence réellement sa carrière de cinéaste avec Chronique d'un amour. Il poursuit tout au long des années 50 dans une confidentialité relative, très relative, parce que malgré tout, il obtient le Lion d'argent à Venise pour son 3e long métrage qui s'appelle Femmes entre elles. Et c'était déjà Giovanni Fusco, dès ses débuts d'ailleurs, qui collaborait avec Antonioni pour la musique. Fusco qui fut donc le compositeur d'Alain René également pour La guerre est finie et surtout Hiroshima mon amour, et qui disparut assez prématurément, qui était comme Antonioni un moderne dans son approche musicale. On va donc visiter un peu Antonioni tout de suite avant à La Ventura, c'est-à-dire à la période donc du milieu des années 50, où il réalise donc Femmes entre elles, ce portrait de groupe d'après l'œuvre de Cesare Pavese, et puis Le Cri, qui est un des films les plus déchirants de l'histoire du cinéma, où un homme longe les plaines du Pô dans une Italie totalement en noir et blanc, grise et dans le brouillard. Un film pré-Wendersien, on pourrait dire. En tout cas, on écoute les deux extraits musicaux de ces films. Thank you. Un instant, la musique, enfin un extrait de la musique d'Il Grido, Le Cri, en 1957, une musique signée Giovanni Fusco, tout comme la musique du générique de Femmes entre elles, Les Amici, en 1955, toujours signée, donc je le disais, Giovanni Fusco, deux films de Michelangelo Antonioni qui sont encore dans une inspiration un peu néo-réaliste, même si on sent pointer d'autres traits pertinents dans le cinéma d'Antonioni, qui vont s'affirmer donc davantage, je le disais, dans L'Aventura, un film qui fait scandale, notamment parce qu'il ne répond pas au canon du récit traditionnel. Le personnage principal disparaît au bout d'une demi-heure du film. Le film est centré sur la crise du couple de personnages qui n'arrivent pas à communiquer. C'est un des traits pertinents du cinéma d'Antonioni. Et puis une fin ouverte qui ne conclut rien de définitif sur les personnages, le récit ou l'existence même. Notre existence, on pourrait dire, qui renvoie au spectateur à sa propre incertitude. Alors, c'est l'univers d'Antonioni en ce début des années 60. Je disais quatre films avec Monica Vitti qui forment une sorte de tétralogie. Et notamment le dernier, Il Deserto Rosso, Le Désert Rouge, en 1964, marque également l'irruption de la couleur dans l'œuvre d'Antonioni, avec une utilisation de la couleur extrêmement frappante dès cette période-là. Et puis, musicalement, Fusco, c'est toujours lui qui est aux manettes, notamment dans L'Aventura, on l'a dit, mais également L'Éclipse et Ce Désert Rouge, où il tente, où il va dans la direction d'une musique beaucoup plus électronique. Ça va de pair avec la forme d'abstraction vers laquelle tend Antonioni à cette époque. On peut voir la fin de L'Éclipse, par exemple, où le personnage disparaît, il ne reste plus que des objets. Et puis Le Désert Rouge, où il inscrit ces deux personnages, Richard Harris et Monica Vitti, dans un paysage industriel totalement dévasté. Écoutons cette musique de Giovanni Fusco pour Le Désert Rouge.
Thank you.
La musique franchement contemporaine, comme on disait à l'époque, en tout cas en 1964, de Giovanni Fusco pour Deserto Rosso, le désert rouge, un morceau qui s'appelait Astrale, qui dit bien voilà le climat étrangissime et abstrait de ce film, Le désert rouge, le dernier film italien à proprement parler de Michelangelo Antonioni, en tout cas à cette période, puisqu'après il va partir vers d'autres contrées, Angleterre, États-Unis, Maroc, Espagne, Edo, Chine, on va en parler tout de suite et on va quand même revenir un tout petit peu en arrière avant ces voyages antonioniens avec La Notte en 1961, donc toujours avec Monica Vitti, mais également Marcello Mastroianni et Jeanne Moreau, dont on se souvient de la fameuse marche comme ça dans une ville un peu étrange et déserte. Antonioni n'a pas dédaigné le jazz en matière musicale, puisque pour La Notte, il avait demandé au pianiste Giorgio Gaslini, musicien de jazz à part entière, de composer une musique forcément alors à la fois assez dissonante par moment, mais également quand même très marquée par le vocabulaire du jazz, tout comme d'ailleurs la musique du Blow Up d'Antonioni en 1967, Palme d'Or à Cannes, un des films les plus influents de l'histoire du cinéma avec le Vertigo d'Hitchcock, et qui est un film qu'on peut revoir avec un énorme plaisir, tout comme d'ailleurs la plupart des films d'Antonioni. Donc ça, c'est en 1967, et la musique, elle est signée Herbie Hancock, dans un vocabulaire là aussi tout à fait jazz, un jazz un peu différent de celui de Gaslini. On se souvient également de la séquence où on voit le groupe les Yardbirds, séquence aussi fameuse dans Blow Up avec Jimmy Page notamment, à la guitare, mais on va écouter un extrait d'abord de la musique de La Notte et la Nuit, signée Giorgio Gaslini.
even with beautiful girls, you look at them and that's that. That's why they always end up by. And I'm stuck with them all day long.
It would be the same with men.
Have a listen to this. No, keep still, keep still. Listen, keep still. You can smoke if you like. Slowly, slowly. Against the beat. That's it.
Enough as it is. Can I have some water?
Peu de jazz dans le cinéma d'Antonioni, deux fois. Donc d'abord le piano et le quartet plus exactement de Giorgio Gaslini pour un extrait de la musique de la Notte Lettura della Lettera. Cette musique a été rééditée d'ailleurs il y a pas très longtemps, en 2011, par le label espagnol le Quartet Records, avec Giorgio Gaslini au piano, Heraldo Volante au ténor, au saxophone ténor, Alceo Guatelli à la basse et Ettore Liuvelli à la batterie, un quartet de jazz donc pour la musique de ce film fameux avec Mastroianni, Gian Moro et Monica Vitti bien sûr, et puis en 1967 pour le fameux Blow Up, la musique d'Herbie Hancock qu'on entendait, et les dialogues, les voix donc de David Hemmings et Vanessa Redgrave, les deux interprètes principaux de ce film, David Hemmings dans le rôle de ce personnage de photographe inspiré par le photographe David Bailey, et cette ambiance du swing in London, tel que Antonioni l'a filmé à l'époque, assez fantomatique, avec évidemment une dimension plastique très forte, comme toujours dans tous les films d'Antonioni, dimension plastique qui va s'affirmer peut-être encore davantage dans le film suivant, à la toute fin des années 60, et cette fois on va être en Californie, et c'est pour Zabriskie Point, qui est un film qui a été assez mal reçu à l'époque, mais qui aujourd'hui a une réputation beaucoup plus importante, considéré vraiment comme un des grands films pop de cette période-là. D'ailleurs, l'exposition à la Cinémathèque, donc autour d'Antonioni, s'appelle « Aux origines du pop », c'est vrai que la pop, Antonioni l'a croisé, on pouvait même en entendre des éléments dans le jazz d'Herbie Hancock, qui n'était pas un jazz, on va dire, très marqué par, disons, l'esthétique traditionnelle, ni même par le free, alors que celui de Gaslini était beaucoup plus dissonant, en tout cas pour en revenir à Zabriskie Point, là on est vraiment au cœur des voyages antonioniens, au cœur aussi de la manière dont Antonioni photographie un moment de l'histoire, on pourrait dire, et cette histoire, d'ailleurs, elle se dissout très vite dans le désert, c'est un lieu absolument privilégié pour Antonioni, et notamment dans ses derniers films, enfin en tout cas dans les films de cette époque, ainsi également dans Profession Reporter, qu'il tournera en 1974, mais la musique disparaît pratiquement à ce moment-là du cinéma d'Antonioni. Je vous propose d'écouter alors une musique qui est assez fameuse dans Zabriskie Point. Il y a pas mal de personnages personnages musicaux qui ont contribué à la bande originale de Zabriskie Point, notamment le groupe Grateful Dead, mené bien sûr par Jerry Garcia ou le guitariste John Fahey, plus expérimental, mais surtout c'est les Pink Floyd qui ont constitué l'armature musicale de Zabriskie Point. On va écouter la musique qu'ils ont composée pour la séquence finale de Zabriskie Point, la fameuse explosion de la maison dont on se souvient évidemment si on a vu Zabriskie Point. Thank you. come in number 51, pardon, Your Time is Up, le titre du morceau des Pink Floyd pour la séquence finale de Zabriskie Point, donc extrait de cette bande originale qu'il faut connaître si on a envie de découvrir l'univers pop d'Antonioni, et l'univers pop des Pink Floyd bien sûr, et des autres, je le disais, Grateful Dead ou John Fahey par exemple, qui ont largement contribué à cette musique. La musique joue un rôle quand même souvent très important dans le cinéma d'Antonioni, mais je le disais, beaucoup moins dans la dernière partie de sa carrière, à partir de Profession Reporter, de son documentaire aussi sur la Chine, un long documentaire sur la Chine en 1972, et puis également de l'identification d'une femme, où là on entend quelques morceaux un peu à la mode du début des années 80. Et c'est vrai que la grande filmographie musicale d'Antonioni s'arrête un peu avec Zabriskie Point. On reviendra donc non pas sur Antonioni lui-même, mais sur les influences qu'il a exercées sur nombre de cinéastes modernes ou post-modernes, on pourrait dire. Mais je vous rappelle donc que la Cinémathèque française consacre en ce moment même une rétrospective à Michelangelo Antonioni et une exposition qui s'appelle Aux origines du pop jusqu'au 12 juillet 2015. Donc vous avez un peu de temps pour aller à la Cinémathèque, mais c'est l'heure maintenant de retrouver Charles-Pierre Vallière. Bonsoir Charles-Pierre.
Bonsoir Thierry.
Dites, oh, tu aimes ça la musique ?
La musique ? Ah oui, j'aime ça, surtout après un bon déjeuner.
Bonsoir à toutes et à tous. Alors hier est sorti sur les écrans le film Labyrinthe du silence, un Thierry, du réalisateur Giulio Ricciarelli. Alors il s'agit d'une production allemande dont l'histoire est celle d'un jeune procureur à la fin des années 50 en Allemagne, donc qui va permettre en fait d'ouvrir un procès à partir de documents qu'il a retrouvés permettant de poursuivre en fait d'anciens SS du camp d'Auschwitz. Alors la bande originale a été faite par deux compositeurs, et la majeure partie des morceaux en fait de cette BO sont de Nicky Reiser. Alors Reiser qui a commencé sa carrière lui au début des années 80, c'est un flûtiste de formation. Il a étudié à la fois en Europe et aux États-Unis. Il a composé une quarantaine de bandes originales, essentiellement justement pour des films allemands. Et même si justement pour sa première BO qui date de 1986, et pour le film Du mir auch de Anja Franke et Danny Levy, eh bien ces deux réalisateurs avaient fait appel à lui parce que Reiser avait été entendu jouant du jazz par l'un d'entre eux. Et justement, ce qui est très étonnant, enfin c'est pas si étonnant que ça, mais disons qu'après, Reiser a de moins en moins utilisé ce type de sonorité. Et le Labyrinthe du silence, ce sont des sonorités essentiellement classiques. Alors ce choix très classique de bande originale s'appuie justement sur des instruments essentiellement acoustiques, comme le piano, les cordes, avec des motifs mélodiques plus ou moins marqué, qui donne justement une atmosphère un peu vieillotte à ce film. Alors c'est vraiment, d'ailleurs sur l'ensemble des morceaux, c'est ce qui émane, hein, Thierry, de l'ensemble de cette bande originale, qui ne déchaîne pas vraiment les passions, qui n'occasionne pas non plus de moments particulièrement trépidants. En fait, c'est vraiment le choix d'une bande originale plutôt conventionnelle, alors dans la forme, mais aux sonorités assez surannées, qui là pour le coup colle assez bien avec la période dans laquelle se déroule le film, et puis une morosité qui convient cette fois-ci au sujet. Voilà, c'est un extrait de la bande originale du film Le Labyrinthe du silence, composé par Nicky Reiser. C'est une BO donc qui est quand même dans l'ensemble qui est donc très classique. Il y a même certaines sonorités qui m'ont fait penser parfois un petit peu à du Charles Ives. C'est certains passages seulement, pas partout malheureusement. Et donc il y a un deuxième compositeur pour cette BO. Le deuxième compositeur, c'est Sébastien Piel. Donc il est allemand, lui, et un peu plus jeune donc que Reiser, puisqu'en fait ils ont 20 ans d'écart. Il est né en 1980, Sébastien Piel. Et alors, ce n'est pas pour autant un novice. Hein. Il a déjà une vingtaine de bandes originales à son actif. Et sur cette BO, en fait, il y a que 4 morceaux hein, qui sont signés de lui sur les 16 en fait que comporte cette BO. Et donc, tout en étant assez fidèle à l'atmosphère générale justement proposée par Reiser, il parvient quand même à s'en démarquer justement avec une musique alors aussi acoustique, mais cette fois-ci chargée de cordes mélancoliques, mais surtout avec l'utilisation quasi systématique d'une clarinette. Alors, ça fait un peu penser justement en ce qui le concerne, eh bien, aux musiques de Desplat, par exemple, pour The Imitation Game, ou celle d'Alberto Iglesias pour La Tombe. Voilà un extrait de la bande originale du film Le Labyrinthe du Silence. Alors cette fois-ci composé par Sébastien Pihl, hein, cet extrait. Même si donc l'ensemble de cette BO était composé par Nicky Reise, donc qui est disponible au téléchargement, Thierry, cette bande originale chez Klausen Wobke Putz Film Production GmbH. Voilà. Et puis donc aussi dans l'actualité, il faut noter la réédition, enfin la nouvelle sortie cinéma dans quelques cinémas du film The Big Lebowski, film de 1998.
Qui a laissé un bon souvenir à tous ses spectateurs, je crois.
Absolument, moi le premier.
Film culte.
Sorti en 1998. Alors la musique était de Carter Burwell, même si évidemment il y a peu de morceaux de Carter Burwell.
Beaucoup de musique additionnelle.
Exactement, il y a surtout des musiques additionnelles. C'est ça qui en fait justement aussi son charme. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs essentiellement aussi dans cette bande originale. Et ce qui est intéressant justement de la part des frères Cohen, c'est qu'ils ont utilisé ces musiques additionnelles très éclectiques, hein, puisque ça va justement de Bob Dylan à Ima Sumac à Mozart et également à Moussorgski pour les tableaux d'une exposition.
Il me semble qu'il y a également du Henri Mancini.
Absolument, lui jaune de Henri Mancini. Et donc en fait, ce qui est amusant, c'est que la façon dont ils utilisent ces musiques, eh bien, c'est toujours à la limite. Alors soit c'est pour se moquer de certains de leurs personnages, soit alors c'est pour se moquer de l'art contemporain. C'est le cas d'ailleurs pour les tableaux d'une exposition. Donc en fait, soit ils restent à la limite et c'est ça qui crée l'humour, soit alors ils dépassent cette limite et c'est dans la surenchère que l'élément musical devient drôle avec l'élément cinématographique. Et donc je vous propose d'écouter l'extrait. Pas l'extrait, mais plutôt le morceau qui s'appelle The Man in Me, composé par Bob Dylan sur une scène tout à fait mythique avec Jeff Bridges. Nearly any task, and ask for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. To myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are. That's my heart a-reeling from my toes up to my ear. The man in me will hide sometimes to keep. The Man in Me, chanté, composé par Bob Dylan, donc musique que l'on entend dans The Big Lebowski, donc avec de nombreuses autres musiques pour ce film, donc qui ressort sur les écrans. Et donc la BO, elle est disponible chez Mercury Records. Et puis Thierry, il était question d'avoir un spin-off de The Big Lebowski en 2015, mais j'ai pas plus de renseignements pour ça autour du personnage de Jésus interprété par John Turturro.
Bon, on verra ça, mais en tout cas, ça pourrait être une idée dangereuse peut-être, mais pour les fans du film qui sont nombreux. Mais enfin voilà, en tout cas,
donc merci. Les frères Cohen qui sont
président du jury au Festival de Cannes bientôt, effectivement. On en reparlera peut-être. Merci en tout cas Charles-Pierre et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique essentielle BO. Et on va retrouver maintenant certains héritiers, Antonioni. Fameuse musique pour piano solo de David Shire pour The Conversation, Conversation secrète, de Francis Coppola, 1974, Palme d'Or au Festival de Cannes, tout comme le Blow Up d'Antonioni dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pas un hasard si je parle de Blow Up, parce que ce film Conversation secrète, avec d'autres films américains dont on va parler tout de suite, est a été sous influence d'Antonioni et sous influence de Blow Up de manière tout à fait explicite. Coppola l'a dit clairement, il a été marqué par ce film et il a eu l'idée d'ailleurs assez tôt de Conversation secrète à la fin des années 60, et Blow Up évidemment il l'avait vu à cette époque-là. Alors que bien sûr l'affaire est transposée dans un autre contexte, un film, on se souvient, de Gene Hackman, plombier en quelque sorte, c'est-à-dire s'occupant d'écoute téléphonique et découvrant quelque chose qu'il n'était pas prévu de découvrir, tout comme le photographe de Blow Up découvre dans les photos qu'il a prises en agrandissant quelque chose qui lui montre qu'il y a eu un meurtre. Et c'est le même thème que pour pour le film de Coppola, bien sûr. Alors le film de Coppola n'est pas le seul film américain de cette période qui a été influencé directement par le blow-up d'Antonioni. On le trouve également dans le blow-out de Brian De Palma, qui il fait référence directement dans son titre, mais également de manière plus surprenante, on reprend la scène d'agrandissement de la photo, la fameuse scène de blow-up dans Blade Runner de Ridley Scott. Et oui, ça va se nicher très loin, l'influence d'Antonioni, avec la musique de Vangelis que vous n'entendrez pas ce soir. J'ai choisi d'aller dans d'autres directions parce que l'influence d'Antonioni peut être assez multiple, et de la retrouver également chez un cinéaste d'origine polonaise qui était en Angleterre au début des années 70. Et d'ailleurs, il a fait l'essentiel de sa carrière à cette période-là en Angleterre. C'est Jerzy Skolimowski, un cinéaste que j'adore, et notamment pour ce film Deep End en 1970, juste après Zabriskie Point. Et on sent bien que le Zabriskie Point et le côté pop d'Antonioni a marqué Skolimowski. On va écouter jusque dans l'utilisation de la musique, et notamment la musique du groupe Can, le fameux groupe allemand de krautrock, qui ponctue la bande-son avec Cat Stevens de ce Deep End de Skolimowski, tout comme Pink Floyd. Donc pour Zabriskie Point, on écoute un extrait de la musique de Deep End.
We'll be right back.
extrait de la longue suite du groupe Cannes pour le film Deep End de Jerzy Skolimowski en 1970-71. On était à Londres, mais c'était un groupe allemand et un cinéaste polonais. Donc voilà, l'international psychédélique en quelque sorte à l'œuvre pour un film donc sur lequel l'influence d'Antonioni s'est exercée, notamment le Antonioni de Zabriskie Point et celui de Blow Up. On va rester, on va dire, à l'Est, mais là, beaucoup plus à l'Est avec Andrei Tarkovsky qui lui travaillait vraiment en Russie à cette époque dans les années 70, enfin en Union soviétique très exactement, remettons les choses dans leur contexte historique, et on va dire que chez Tarkovsky tous les films ne sont pas du tout en lien avec le cinéma d'Antonioni, c'est quasiment un contemporain, même s'il est un peu plus tardif qu'Antonioni quand même, il a pas son cinéma, enfin il commence à faire du cinéma en 1962, donc un tout petit peu après Antonioni quand même, 10 ans après, mais on va dire que Tarkovsky a quand même croisé Antonioni à un certain nombre d'égards, et notamment dans deux films, je le dirais, Solaris et Stalker, qui sont deux films de science-fiction de Tarkovsky, où on peut retrouver l'influence d'Antonioni, on dira plutôt l'Antonioni de l'éclipse, ou surtout du désert rouge, la mise en relation, en quelque sorte, du malentendu entre les individus à un niveau quasi métaphysique et existentiel, avec une recherche plastique très étonnante, et puis une utilisation de la musique chez Tarkovsky, alors la musique plutôt électronique, composée par le compositeur, le grand compositeur russe Edouard Artemiev, qui a travaillé également d'ailleurs avec Nikita Mikhalkov, mais dans un registre très très différent, et qui surtout travaillera donc avec Tarkovsky pour ses trois films majeurs des années 70, Solaris, donc je le disais, Le Miroir et Stalker, dont je vous propose d'écouter un extrait donc pour poursuivre ce voyage post-antonionien. Thank you. Un extrait de la musique composée par le musicien russe Edouard Artemiev pour le Stalker de Andrei Tarkovsky. Nous sommes toujours sur France Musique dans Cinéma Song et nous parlons de l'héritage antonionien, des héritiers d'Antonioni ou ceux qui ont subi dans le bon sens du terme, l'influence de Michelangelo Antonioni, hommagé en ce moment même à la Cinémathèque par une rétrospective et une exposition. On va continuer ce voyage post-antonionien. Alors on va aller en Asie, sans doute le continent finalement qui a le plus où l'influence d'Antonioni s'est le plus exercée. Est-ce que c'est parce qu'il a fait un documentaire très long sur la Chine en 1972? Je ne sais pas, mais on peut citer en tout cas plusieurs cinéastes taïwanais ou japonais qui ont été influencés par Antonioni. On pourrait citer Wong Kar-wai, Tsai Ming-yang, Wong Kar-wai qui est en Hong Kong, Tsai Ming-yang taïwanais. On peut citer également Edward Yang qui était également taïwanais ou Nobuhiro Suwa, le japonais. Mais j'ai choisi de vous faire entendre la musique d'un film que j'aime beaucoup et d'un cinéaste qui sera d'ailleurs présent à Cannes en compétition pour un film de sabre, donc rien à voir avec le film dont on va parler tout de suite. C'est Millennium Mambo, donc film très antonionien là sur les rapports entre les personnages, la façon de dissoudre un peu les personnages dans le décor et dans la musique d'ailleurs, puisque ce film se passe largement dans des bars, dans les milieux de la musique électronique. Et justement, alors donc contexte très différent d'Antonioni, mais finalement pas si éloigné de Zabriskie Point par exemple. Et on va écouter le morceau qui ouvre le film, qui s'appelle le Pure Person, composé par Lim Jung, ce film dont la musique voilà est à dominante électronique et une sorte de chef-d'œuvre du cinéma moderne tardif. C'est en 2001, le film était en compétition à Cannes à l'époque. We'll be right back. Un extrait de la bande originale de Millennium Mambo, le film de Ossia Ossienne 2001, donc composé par la musique composée par Lim Jong, un film donc explicitement antonionien, on pourrait dire l'énigme des relations humaines en particulier, qui est l'un des sujets phares d'Antonioni et de Ossia Ossienne, également transposé donc dans le Taïwan et le Japon de cette période-là. Mais Antonioni peut aller un peu partout puisqu'il est lui-même, il a lui-même voyagé dans le monde entier en tant que cinéaste. Alors on va terminer en revenant un peu sur des terres américaines, les terres de Zabriskie Point notamment pour ce qui concerne Antonioni, et avec deux films qui sont là aussi directement influencés par Antonioni. Je pensais en particulier à Paris, Texas de Wim Wenders. Alors toute l'œuvre de Wim Wenders procède, on pourrait dire, directement d'Antonioni, avec un mélange aussi d'influence du cinéma américain des années 50. Mais Antonioni aura été quand même très marquant pour Wenders. On peut se souvenir par exemple d'Au fil du temps ou de L'ami américain, mais j'ai choisi Paris, Texas avec la fameuse musique de Ry Cooder pour marquer précisément ce trajet post-antonionien. Et puis un cinéaste beaucoup plus récent qui est également acteur et musicien, c'est Vincent Gallo, qu'on connaît plus comme acteur d'ailleurs, mais qui a réalisé deux longs métrages, et en particulier le deuxième qui s'appelle The Brown Bunny, qui est vraiment un film donc d'errance. Le mot errance a presque été inventé pour le cinéma d'Antonioni. On pense justement à un film comme Le Cri par exemple, et l'errance de Vincent Gallo dans ce film The Brown Bunny est évidemment très marqué par Antonioni. On pourrait citer également Gus Van Sant avec Jerry, Elephant ou Paranoid Park, qui sont là aussi des films très marqués par l'influence d'Antonioni. Pour Vincent Gallo, alors vous avez écouté la musique de Ry Cooder, mais pour Vincent Gallo, j'ai choisi une chanson qui ne figure pas dans son film, puisqu'il avait publié un très bel album qui s'appelle When chez Warp Records il y a quelques années, Vincent Gallo, mais finalement la chanson m'a paru tout à fait explicite pour terminer cette émission antonionienne et post-antonionienne. Désertique, contemplative et mélancolique de Vincent Gallo clôt cette émission, ou presque, il me reste à désannoncer, comme on dit dans le jargon, auparavant, donc ça c'était When de Vincent Gallo pour extrait de l'album éponyme du même nom, donc qui évoquait également le film de Vincent Gallo, Brown Bunny, qui avait été présenté d'ailleurs en compétition à Cannes, et puis une autre palme d'or, on en a eu quelques-unes ce soir, avec Blow Up ou Conversation Secrète, mais également Paris, Texas, un extrait de la bande originale de Ry Cooder, la fameuse bande originale de Ry Cooder qui a été rééditée il y a quelques temps dans un très beau coffret consacré aux musiques de films de Ry Cooder, Soundtracks, dont on s'était fait l'écho il y a quelques temps dans Cinéma Song. Et bien cette émission antonionienne et post-antonionienne est terminée. À mes côtés, il y avait ce soir Dorothée Goll, Jason Taos à la technique et l'imparable Bruno Rioux-Maillard était à la réalisation. Comme chaque semaine, je vous laisse en compagnie d'Anne Montaron et de Sonala Brévé. Bonsoir Anne Montaron.